Alain Baraton, jardinier en chef du château de Versailles.
Heureux d'être avec vous ce matin.
On est ravis de vous accueillir chaque week-end. Certaines plantes ont des noms bien difficiles à écrire et à prononcer.
Et oui, comme le Colvidia amabilis qui s'écrit avec un K, deux W et un Z.
Pas mieux.
Alors, vous vous doutez bien évidemment qu'il n'a pas été nommé ainsi par hasard. Le nom rend hommage à un professeur de botanique à Berlin, né à Berlin en 1873 et décédé en 1956, Richard Colvitz. Fort heureusement, le nom vernaculaire de l'arbuste est bien plus facile à retenir, buisson de beauté.
Et de quelle région du monde est-il originaire ce buisson?
Le Colvidia est découvert en Chine en 1901 par Ernest Henry Wilson, un botaniste anglais qui connaissait si bien le continent asiatique qu'il fut surnommé par ses pairs le Chinois. Pour alimenter les grands domaines anglais et les collectionneurs, il parcourt le monde entier et pour vous donner une petite idée des pays visités, sachez que de 1922 à 1925, il va herboriser en Nouvelle-Zélande et en Australie, en Amérique centrale et en Amérique du Sud, en Inde et en Afrique orientale, et ce, juste après être revenu du Japon, de Formose et de Corée. Et c'est donc lui, Ernest Henry Wilson, qui baptise ainsi le Colvidia.
Oui, mais ce n'est pas lui qui le nomme buisson de beauté.
Ce sont les Américains, ceux des États-Unis, quand ils découvrent l'arbuste livré à l'arboretum de l'université de Yale dans le Connecticut, toujours par le même homme. Immédiatement, ils le nomment. Écoutez, mon anglais est extraordinaire. Beauty Bush, hein, nom que leur voisin anglais lui donne toujours.
Il a répété toute la soirée.
J'ai quelques lacunes en anglais, je ne pourrais rien vous cacher.
Et Beauty Bush, donc, pour se nommer ainsi, l'arbuste donc doit être vraiment beau.
Eh oui, il l'est tant que je ne comprends toujours pas pourquoi on n'en voit pas davantage dans nos parcs et jardins. C'est un arbuste vigoureux qui peut atteindre 3 mètres de hauteur et il fleurit abondamment en été. Ses fleurs sont le plus souvent roses et son écorce qui s'exfolie est elle aussi très esthétique, surtout en hiver. Le Colvidia tolère presque tous les types de sols, apprécie le soleil et les situations mi-ombrées, mais lumineuses. Et il se moque du froid. Quand je dis qu'il se moque du froid, il en ricane même du froid. Moins 25 ne l'effraie absolument pas. Pour tout savoir ou presque sur le Colvidia amabilis, sachez enfin qu'il produit des petits fruits sans intérêt mais couverts de piquant, ce qui fait que les Chinois, eux, l'appellent fruit à hérisson.
Le Colvidia.
Vous parlez bien chinois.
Voilà, couramment.
Je parle bien couramment sûr, chinois. Bien sûr, Alain Baraton. Vos conseils à présent et vos réponses aux questions des auditeurs, auditrices de France Inter. Christophe, d'ailleurs, aimerait savoir quelle est la différence entre la jonquille et le narcisse. Je vous précise que Christophe est marié parce que sa femme dit que c'est différent. Jonquille, narcisse.
C'est une question qui revient presque tous les ans. Eh bien, les jonquilles sont des narcisses. Simplement, la jonquille est une variété de narcisse qui a des feuilles en forme de jonquille, ce n'est pas plus compliqué.
Cathy nous rappelle que les sites online recommandent de tailler les fuchsias en automne, les fuchsias en automne, et pourtant en Irlande il y a des haies de fuchsias en pleine campagne qui ne semblent pas avoir été taillées. Alors qui croire ?
Il faut être prudent, les fuchsias sont des plantes qui furent très en vogue au 19e siècle. Ce sont des plantes frileuses. En dessous de 7 degrés, la plante n'est pas très heureuse. Mais une variété, le Magellicana Ricartoni, donc en hommage à Magellan bien évidemment, lui est un fuchsia qui supporte les températures un petit peu plus fraîches et qui se plaît tellement en Irlande qu'il est presque devenu le symbole de cette île. Lui, il est capable de faire des haies de 1,5 m, 2 m, voire 3 m de hauteur. Il est sublime. Et le secret pour avoir un beau fuchsia dans cette région, j'allais dire, du code de l'Europe, est justement de ne pas le tailler, mais de pincer avec les doigts l'extrémité des tiges. En pinçant au-dessus des yeux l'extrémité des tiges, on favorise ainsi la ramification du végétal et la densification du feuillage.
Pas trop fort, parce que ça lui fait mal. Bah, hein.
Évidemment. Hein, les plantes sont des êtres vivants. Je vous rappelle, partout ailleurs, le fuchsia, généralement, on réduit d'un tiers le volume de branchage, mais il est vrai qu'il existe quelques variétés, et je vais le redire à nouveau, le Magellicana Ricartoni.
Ah ben voilà.
Ah oui, non, mais...
quand ça veut sortir tout ça, c'est quand même bien mieux.
L'émotion, c'est d'être avec vous, l'émotion.
Oui, bien sûr.
Mais c'est une très belle plante.
Sylvain doit planter un arbre en motte et il hésite, Sylvain, à percer cette motte de terre pour y enfoncer le tuteur. Alors, comment procéder ?
Sylvain, je vous remercie d'avoir laissé votre message. Vous évitez ainsi de vous faire, j'allais dire, houspiller. on ne perce pas la motte d'un arbre que l'on va planter parce que il y a des racines et les dégâts causés pour les racines sont irréversibles. On va donc choisir un mode de tuteurage qui permettra d'ancrer solidement et durablement le végétal pour lui permettre de résister au vent. J'en profite d'ailleurs pour rappeler que quand on fait un tuteurage simple, à savoir un tuteur en parallèle du tronc, on va le mettre du côté du soleil généralement pour le protéger des rayons malheureusement brûlants qui peuvent endommager l'écorce. Là, il existe quantité de systèmes d'ancrage pour permettre de maintenir l'arbre sans avoir, bien entendu, à endommager les racines. Et j'en profite également pour rappeler que quand on tuteur un arbre, surtout un arbre en motte, surtout quand il a quelques années déjà de pépinière, on laisse le tuteur en place 2, 3, voire 4 ans parce qu'on n'a pas conscience que ça continue de bouger. Le vent, aujourd'hui, est de plus en plus fort et que la plante, tant qu'elle ne s'est pas totalement enracinée, peut être sujette à balancement.
Quel est le meilleur moment pour semer une prairie fleurie, demande Jackie.
Tout dépend de la composition de la prairie fleurie. Si la prairie fleurie contient comme petites graines, entre autres, des plantes annuelles, eh bien, il vous faudra attendre le printemps, parce que sinon, elles vont geler. Enfin, les germes, les plantules, les jeunes plants ne supporteront pas le gel de début d'année. Donc, l'idéal, c'est au début du printemps, quand il y a un mélange annuel vivace, et en automne, quand il n'y a que des vivaces.
Dernière question, les sacs vendus comme compostables peuvent-ils réellement être déposés sur des tas de compost?
On entend par sac compostable un sac capable de se décomposer en totalité à 90% dans les 6 mois qui suivent son dépôt sur le tas de compost. Et donc, pour faire simple, c'est un tas qui est capable de se décomposer au même rythme que les végétaux. Personnellement, j'en ai jamais vu qu'ils se décomposent parfaitement bien. Souvent, en plus, ils ont de l'encre sur eux. Je suis pas convaincu que ce soit très bon d'en mettre sur le tas de compost.
Très bien. Un dernier conseil pour le week-end, pour ce dimanche.
Eh bien, un bouquin assez, on en reparlera parce que... Non, on en reparlera pas.
Je
voyais parution du 10 janvier 2019.
Commençons par en parler.
Je pensais qu'il sortait que dans un an. C'est quand même bizarre d'en parler déjà. Soigner les plantes par les huiles essentielles et les huiles végétales d'Éric Petiot, c'est publié chez Terran et il est sorti déjà il y a un mois, donc on peut l'acheter. C'est intelligent, comment entretenir les plantes de manière écologique et respectueusement de l'environnement.
La main verte d'Alain Baraton. Merci Alain.